Lui, ça fait pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolémie et ton péchine. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
La radio più ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh ben, à 19h08, on est presque pas trop en retard. Et en tout cas, vous êtes bien sur le 102.2 FM. C'est Radio Canu et du coup, c'est l'heure des Canu Info. Mais de quoi qu'on va parler ce soir?
Et alors, tout d'abord, on va vous parler des conditions de tôle, de la tôle de Perpignan.
Et puis, on va vous parler de la rentrée des classes avec une espèce de medley méli-mélo de toutes les merdes qui touchent de près ou de loin l'éducation nationale à la rentrée et à Gabriel Attal, malheureusement.
Ensuite, on vous parlera un peu de nucléaire et de canicule.
Et puis, après une petite musique, eh ben, on vous parlera de Radio Begoum. Désolé pour la prononciation, si c'est pas la bonne, notre persan est pas très au point en ce moment. Mais en tout cas, c'est une radio de meufs en Afghanistan et c'est méga classe.
Et ensuite, on aura notre désormais traditionnelle rubrique animaux. Je vous dis pas de quoi on va parler.
C'est le suspense, c'est la surprise. Restez jusqu'au bout. Et comme ça, vous pourrez écouter l'agenda de la semaine avec la rentrée qui commence doucement. Et évidemment, le ACAB. Alors, du coup, on attend avec impatience vos appels au 04 78 39 18 15.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs? Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État.
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et donc, on commence par la prison de Perpignan. Je vais vous lire un article donc, de l'OIP qui dit en gros que la justice confirme les conditions indignes de détention à la prison de Perpignan, mais refuse de suspendre les incarcérations. Dans une décision du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confirmé le caractère indigne des conditions de détention au centre pénitentiaire de Perpignan et ordonné au ministre de la Justice d'engager plusieurs mesures pour préserver les droits des personnes détenues. Il refuse toutefois de prendre toutes ses responsabilités et d'ordonner la suspension des affectations dans l'établissement. Il appartient maintenant au Conseil d'État de trancher, l'Observatoire national des prisons et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus le saisissent dans le cadre d'un appel. Saisi d'un référé liberté par l'OIP, donc l'Organisation internationale des prisons, et l'Association des avocats de la défense, le tribunal administratif a pris acte de l'état de délabrement du centre pénitentiaire et a ordonné à l'administration pénitentiaire de procéder à l'élimination de la moisissure, à la réparation et au changement des fenêtres défectueuses et, de manière générale, de remédier aux conditions d'insalubrité des cellules. Le juge enjoint également une opération d'envergure susceptible de permettre la désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire de Perpignan, ainsi que l'ensemble de réparations qui s'imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des détenus. Enfin, et pour la première fois dans la jurisprudence, le juge des référés a sévèrement apprécié les mauvais traitements infligés par les personnels pénitentiaires au quartier disciplinaire, privation de douche, de nourriture, brimades, etc. et a ordonné l'ouverture d'une enquête interne pour identifier les responsables. La suspension des nouvelles incarcérations au centre pénitentiaire de Perpignan, où le taux d'occupation du quartier maison d'arrêt pour hommes atteint 279%, a en revanche été évincé par le tribunal. Alors que la demande était inédite, celui-ci s'est retranché derrière une jurisprudence habituelle du Conseil d'État concernant les limites de son office. Ainsi, compte tenu de l'ampleur du phénomène de surpopulation au sein de l'établissement, il juge qu'une telle injonction constituerait une mesure d'ordre structurel excédant son pouvoir. Il ajoute que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mise sous écrou, lesquels révèlent exclusivement de l'autorité judiciaire. L'ordonnance précise d'ailleurs qu'une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Ce qui a le mérite de souligner l'écueil de la législation en vigueur. Il faut pourtant rappeler que le dispositif Stop Écrou a été mis en place à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan par l'administration elle-même, faisant naître un nouveau contexte et confirmant qu'elle est capable de suspendre les mises sous écrou dans un établissement précis pour y réduire la surpopulation. Donc l'OIP et la 3D porteront donc cette question devant le Conseil d'État dans le cadre de l'appel. C'est assez hallucinant quand même.
C'est assez fou. Ils disent finalement c'est trop grave, il y a trop de gens dans la prison pour qu'on puisse faire quelque chose parce que ça devient structurel. C'est assez, j'allais dire génial, mais au sens ironique du terme, n'est-ce pas? Et alors, on va vous parler de la rentrée scolaire parce que je crois que c'est la semaine prochaine hein, quand même que l'école reprend. Et vous savez, l'école, c'est obligatoire pour tout le monde et pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Pour commencer, on va commencer par dire que bon, il manque 3000 profs pour la rentrée. Alors en plus, évidemment, c'est pas réparti de façon égale fonction des académies. Et vous le devinez bien, généralement, plus vous êtes dans un département, une académie pauvre, moins il y a de profs là-bas. Et du coup, on voit encore les inégalités d'accès à l'école. Mais bien pire que ça, c'est qu'aussi, tous les ans, il y a un certain nombre d'enfants qui vont devoir aller à l'école et puis qui vont pas rentrer chez eux le soir parce qu'en fait, ils n'ont pas de chez eux, ils sont sans hébergement et ils vivent à la rue. Sauf que c'est déjà une catastrophe tous les ans. Mais là, c'est au moins 1990 enfants. Alors, on sait évidemment que ce chiffre est toujours très sous-estimé. Là, il est donné par la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, l'UNICEF France. Déjà, c'est une hausse de 20% par rapport à 2022. Et c'est même une hausse de 124% par rapport à la fin janvier 2022, alors que, vous savez, normalement, il y avait la suppression du plan froid, que tout ça. En fait, on voit bien que ça n'existe pas. Et que du coup, on se retrouve cette année avec plus de 2000 enfants en vrai qui vont aller à l'école et ne pas avoir d'endroit où rentrer le soir. Comme nous dit le président de la FAS, c'est un rude constat d'échec collectif, et c'est surtout les politiques d'hébergement d'urgence, de logement qui sont en œuvre en France qui ne fonctionnent pas. Entre autres, on voit aussi le nombre de familles sur les politiques migratoires où les personnes qui arrivent en France n'ont pas le droit de travailler, et du coup quand on ne peut pas travailler, comment est-ce qu'on fait pour trouver un logement quand les centres d'hébergement d'urgence sont tous extrêmement saturés? Et bien évidemment on ne peut pas, et du coup ça fait de nombreux enfants qui se retrouvent à la rue. Sur la rentrée, bon, on peut faire un tout petit détour, mais ça c'est plus histoire de se moquer un peu gratos du gouvernement, qui a fait une petite vidéo de promotion de l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. On aurait pu imaginer que ce soit pas que des enfants blancs qui aient des rêves d'écologie, et pas de chance, ils ont fait une belle vidéo de promotion de d'hommage à la mort de Martin Luther King, avec que des enfants tout blancs. Qui parlaient de leurs rêves à eux, I have a dream, comme disait Martin Luther King, mais dans leur rêve, bizarrement, dans le montage qui a été proposé par le gouvernement, il n'est jamais question d'égalité raciale et de racisme, du coup, systémique par derrière. Du coup, on a des beaux rêves, hein. Pareil, on ne va pas en vouloir à ces enfants-là, ça serait quand même fortiche, mais en termes de promotion et de mise en avant de ce qu'a pu faire Martin Luther King dans la lutte pour les droits civiques, c'est quand même vraiment plus que pitoyable, n'est-ce pas? Voilà, et au détour de ça, là on va pas faire un long blabla sur les abayas, etc. En fait, ça va gonfler tout le monde et il n'y a pas besoin qu'on prenne la parole pendant 5 minutes pour raconter à quel point c'est raciste. On prendra juste le temps de vous rappeler que quand même, bon, la question de la laïcité, elle est prise vraiment de façon très, très souple selon quelle religion est concerné, en rappelant que l'enseignement privé sous contrat, donc l'enseignement où les profs sont en fait payés par l'État et les familles rajoutent du pognon en plus pour avoir une meilleure qualité ou en tout cas moins d'élèves dans les classes, etc. Et qui est à 95% du confessionnel catholique, lui, ça représente à peu près 8 milliards d'euros investis par l'État, et du coup, à entendre Gabriel Attal qui nous parle de laïcité en interdisant des gens de porter certains vêtements et des meufs en particulier, alors que bon, on prendra quand même une minute pour rappeler que la laïcité, c'est censé être l'État qui garantit le droit à tout le monde d'avoir sa religion. Voilà, en tout cas, quand on est catholique, on a le droit à 8 milliards d'euros pour l'enseignement privé, et ça a l'air vraiment, vraiment méga confort, mais bref. Voilà, pour finir sur cette rentrée terrible, on va parler d'un truc qui est peut-être moins connu, en tout cas que moi je connaissais pas du tout avant de tomber sur cet article. C'est l'allocation rentrée pour les enfants qui sont placés. Moi j'imaginais bêtement que ça arrivait quelque part, probablement à la personne qui avait l'autorité parentale ou qui allait faire les courses pour la rentrée du dit enfant, et en fait pas du tout, et du coup les enfants placés en famille d'accueil ou en foyer, ils touchent pas directement leur allocation, elle est versée sur un compte qui est créé à la Caisse des dépôts pour eux, auquel ils pourront accéder quand ils ont 18 ans. Bon, alors déjà, on peut s'interroger, du coup, c'est l'allocation rentrée, avec quel sous est-ce qu'ils peuvent aussi avoir du matos pour aller à l'école et pas passer pour des glandus, parce qu'on connaît les dynamiques qui existent, et peut-être que de temps en temps, avoir le dernier cartable, que ce soit Pikachu ou je ne sais quoi, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est aussi une façon de s'intégrer, d'être comme tout le monde, ça peut être aussi confortable pour les enfants. Donc ça, c'est, on ne sait pas bien comment ça marche. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a plus de la moitié des enfants qui réclament pas en fait cet argent-là. Du coup, là, c'est 19 millions d'euros en fait qui attendent leurs bénéficiaires sur des comptes. Et évidemment, le problème, bah, c'est que, vous le savez ou pas, en tout cas, les enfants placés à 18 ans, bah, globalement, à moins qu'ils signent un contrat jeune majeur, encore faut-il qu'ils puissent le faire, qu'on leur ait expliqué comment ça marche, etc. Faut imaginer quand même, à 18 ans, ils se retrouvent en dehors de leur foyer et bah, vas-y, démerde-toi. Et dans la vraie vie, ça existe, mais c'est quand même très marginal. Des gens qui, à 18 ans, se retrouvent à devoir se démerder absolument tout seul, même s'il y a 2-3 aides, parce qu'on rappelle quand même que le RSA, jusqu'à maintenant, c'est encore à partir de 25 ans. Et du coup, bah, on devrait informer logiquement ces jeunes adultes que, bah, en fait, il y a un peu de pognon. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même toujours ça. Et par exemple, pour avancer la caution d'un appart, ça peut être vachement pratique d'avoir quelques centaines d'euros qui traînent sur un compte qui tombe à 18 ans, etc. Bah, sauf que finalement, bon, on leur dit ou on leur dit pas, c'est un peu pareil. Le fait est qu'il y en a la moitié qui les réclament pas, et j'imagine que c'est pas juste parce qu'ils ont la flemme, parce que quand même récupérer quelques centaines d'euros, c'est quand même toujours bien confortable. Et du coup, avec ce fonctionnement là, bah voilà, il y a 19 millions d'euros qui sont sur des comptes à la Caisse des dépôts et qui attendent que éventuellement quelqu'un vienne les réclamer, parce qu'on n'informe pas les personnes de leurs droits. Et évidemment, c'est toujours plus facile quand ça tombe sur des enfants placés qui ont souvent moins les moyens de se mobiliser, et surtout pas des parents qui ont le temps et les ressources pour se mobiliser, qui se retrouvent dans la merde. En bref, bah voilà, une rentrée des classes avec pas d'enseignants, des enfants à la rue, des gens qui touchent pas à leur allocation de rentrée. Mais si on écoute notre cher gouvernement, tout va de mieux en mieux, et surtout tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc, ben voilà, de quoi on va parler avec le nucléaire? On va parler de canicule. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qui s'est passé cet été? La canicule, évidemment. Rien d'exceptionnel, en somme, c'est le nouveau climat. Sauf que, ben, figurez-vous que nos centrales nucléaires ont été construites à la belle époque de la fraîcheur. L'eau coulait à flot et la température était clémente. Alors déjà que les centrales ne sont pas compatibles avec grand chose, mais là elles sont extrêmement incompatibles avec la canicule. Il faut savoir qu'une centrale rejette de l'eau chaude et a besoin d'eau froide. Du coup, en période de canicule, lorsque l'eau est moins abondante et moins froide, les centrales se retrouvent très très vite en PLS et contribuent à assécher et réchauffer encore un peu plus les réserves d'eau. Deux techniques. Arrêter les réacteurs ou diminuer leur puissance, sinon dégrader un peu plus l'environnement. Et donc EDF, figurez-vous, préfère un peu plus la deuxième solution. Et donc je rappelle quand même qu'une centrale mal refroidie, ça augmente très fortement le risque d'accident. Et donc sur ce sujet, on va écouter un podcast réalisé par la CRIRAD, qui est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui date d'une dizaine de jours et qui traite plus spécifiquement des rejets thermiques des centrales, et notamment des normes de rejet. Et ben, du coup, on va écouter ça tout de suite.
Bienvenue sur le podcast de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Sirène, ingénieur géologue au laboratoire de la CRIRAD, pour parler canicule et nucléaire. EDF a annoncé une réduction de la production électrique dans les prochains jours. Qu'est-ce qui a provoqué cette annonce?
Alors, il est d'abord important de rappeler que lorsqu'un réacteur nucléaire produit 1 kWh d'électricité, il rejette 2 kWh de chaleur. Donc le parc nucléaire est à l'origine d'une pollution thermique très importante. Si on se place à l'échelle de la France, en une année, l'ensemble des centrales nucléaires rejettent plus du double de chaleur de l'ensemble de la consommation énergétique de chauffage de tous les logements français. Donc à l'échelle de la vallée du Rhône, le long de ce fleuve, on trouve 14 réacteurs nucléaires. Alors 6 sont équipés de tours aéro-réfrigérantes, donc c'est-à-dire que l'eau qui est prélevé dans le fleuve Rhône est ensuite réchauffé dans la centrale et la majeure partie de la chaleur est rejetée sous forme de vapeur d'eau à travers ces tours. Pour les 8 autres réacteurs, ceux-ci sont en circuit dit ouvert, c'est-à-dire que l'eau est prélevée dans le fleuve, réchauffée et rejetée dans le même fleuve.
Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la canicule ?
La réglementation fixe des limites en termes de rejet thermique propre à chaque réacteur nucléaire. Le principe, c'est que d'une part, l'écart de température entre l'amont et l'aval d'un réacteur ne doit pas dépasser une certaine valeur. Et d'autre part, la température du fleuve en aval du réacteur ne doit elle non plus pas dépasser une certaine valeur. En cas de canicule, la température de base du fleuve peut déjà être très élevée et peut du coup rendre impossible, disons, les rejets ou en tout cas obliger la réduction des rejets thermiques pour respecter les limites réglementaires. C'est ce qui risque de se passer ces prochains jours avec les centrales du Bugey et du Tricastin. Et donc, pour éviter l'impact, disons, des réacteurs dans un tel cas de figure, on n'a que deux moyens. Le premier, c'est de réduire la puissance des réacteurs. Et le deuxième, c'est d'arrêter directement les réacteurs.
Vous avez parlé de réglementation. D'où est-ce qu'elle vient ?
Alors, chaque réacteur nucléaire comporte des contraintes, en particulier en termes de rejet thermique. Ces contraintes ont été mises en place au moment de la mise en production des réacteurs. Donc si on prend le cas des rejets thermiques, on s'aperçoit que la réglementation au cours des 20 dernières années a évolué au fur et à mesure, disons, ou plutôt à la traîne du réchauffement climatique. Donc avant 2003, c'était simple, on avait des limites de rejet. Si les conditions climatiques faisaient qu'on ne pouvait pas les respecter, la solution c'était, comme je le disais, soit de réduire la puissance, soit d'arrêter les réacteurs. Le problème, c'est que la canicule de 2003 était tellement massive que si on avait dû respecter cette réglementation, on aurait risqué un blackout à l'échelle de la France. Si bien qu'en urgence, le gouvernement a été obligé de délivrer des dérogations par arrêté ministériel pour permettre à EDF de continuer à produire de l'électricité tout en ne respectant pas les critères réglementaires de rejet thermique. Le même phénomène est survenu avec la canicule de 2006, où de nouveau des dérogations ont dû être accordées. Ensuite, partant du constat que ce type d'épisode risquait de se reproduire, le gouvernement a décidé de changer de système en mettant en place pour chaque réacteur deux régimes. Un régime de conditions climatiques normales, donc qui s'apparente à ce qui était en vigueur auparavant, et un régime de conditions climatiques exceptionnelles, qui permettait, en cas de canicule, d'assouplir les règles sans passer par l'obligation de délivrer des dérogations.
Est-ce que ce régime exceptionnel a déjà été mis en place ?
Alors non seulement ce régime de conditions climatiques exceptionnelles a été mis en place, mais il a même lui aussi été dépassé au moment de la canicule de 2022, où on s'est retrouvé un petit peu dans la même situation que 2003. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible, sous peine notamment de blackout, de respecter les règles mises en vigueur avec les conditions climatiques exceptionnelles. Donc là encore, le gouvernement était obligé de déclencher un nouveau dispositif permis par le Code de l'environnement, qui s'appelle « situation exceptionnelle », et qui a conduit à délivrer, là encore, des dérogations pour aller au-delà, disons, des limites prescrites par les conditions climatiques exceptionnelles.
Est-ce qu'on a une idée des évolutions futures ?
Les modélisations montrent que la situation ne va cesser de se dégrader au cours des prochaines décennies. La fréquence des épisodes de chaleur extrême va augmenter. Donc une réflexion est en cours pour voir comment adapter, disons, le parc nucléaire à cette situation, à cette évolution. Il est probable qu'on s'achemine vers un assouplissement des contraintes en matière de rejet thermique au détriment de l'environnement. S'il est vrai que les centrales nucléaires émettent moins de CO2 que les centrales à charbon ou à gaz, on constate que pour ce qui est des rejets thermiques, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Les centrales nucléaires émettraient même plutôt plus de chaleur que les centrales à gaz du fait d'un rendement global plus faible. Et ces rejets thermiques ne sont pas sans conséquences, puisque de l'aveu même d'EDF, les centrales nucléaires de la vallée du Rhône sont à l'origine de plus de la moitié du réchauffement constatée sur le fleuve, en aval du Tricastin, au cours des dernières décennies.
Merci Julien pour toutes ces explications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur crirad.org dans le dossier pollution thermique. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Donc du coup, je vous encourage à visiter le site de la CRIRAD. Ils ont plein d'autres sons, podcasts sur d'autres sujets et plein d'infos intéressantes à consulter. Donc par rapport à ce sujet, pour l'anecdote, en avril 2015, François Hollande avait négocié avec la Suisse pour qu'en cas de sécheresse, le débit du Rhône à la sortie du lac Léman reste suffisant pour refroidir les 14 réacteurs français situés au bord du fleuve. Hey, on négocie des trucs là.
Et en même temps, ils ont un compte pour lui là-bas, il paraît.
Et autre détail, un peu plus vieux encore, pour vous dire un peu la prise en compte de ce changement climatique. Lors de la conception des réacteurs, des températures maximales avaient été prises en compte pour dimensionner les systèmes d'aération. Mais en 2003 et en 2006, ces températures ont largement été dépassées et il a même fallu arroser l'enceinte de confinement de la centrale de Fessenheim, qui est désormais fermée, pour refroidir le bâtiment. Autant vous dire que voilà. Sur le sujet du nucléaire, de la canicule et notamment de l'eau, vous pouvez aussi retrouver tout un dossier sur les conséquences du nucléaire sur l'eau sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Et pour finir cette rubrique nucléaire, je vous encourage également à consulter la rubrique des accidents nucléaires partout, toujours sur le site réseau Sortir du nucléaire, dans laquelle vous retrouverez notamment tous les incidents de l'été. Et on en dénombre pas moins de 33 uniquement entre juillet et août. Le dernier en date, d'ailleurs, parle de notre chère centrale du Bugey et de ses pets silencieux d'hydrofluorocarbures, un gaz au pouvoir de réchauffement global des milliers de fois plus puissant que le CO2. D'ailleurs, on apprend dans l'article que le Bugey est loin d'être la seule centrale à relâcher ce type de gaz, au-delà des normes permises. Donc j'ai envie de conclure en disant qu'une centrale, ça pète, ça pisse et ça chie partout.
Voilà. Et vous pourrez lire ça en écoutant Megadeth sur une chanson pas tellement plus joyeuse. Pourquoi pas.
Un gars nommé Johnny qui bouffe des pâtes tous les midis. Mais Johnny horreur les nouilles. Perdu son job à Twitter. Il a perdu son job à Twitter. se foutre en l'air. Relou, relou, il aimerait bien se foutre en l'air. Mais les cordes ça coûte trop cher. Peut-être qu'une batte ferait l'affaire. Mais Johnny aurait des nous. Ils ont baissé ses appels. Ils ont sucré son RSA. Ils ont baissé ses appels. Les sucrés son RSA. Ils poussent des pattes à tous les repas.
Et nous revoilà, nous on n'a pas horreur des nouilles mais on est content de pouvoir manger autre chose. Et on va passer à la rubrique internationale finalement sans jingle après la musique pour vous parler de Radio Begoum. Alors une fois encore, on va dire Begoum peut-être, c'est pas ça et voilà. Qui est une radio en Afghanistan. Et qui est une radio qui se dit par et pour les femmes, donc qui se situe à Kaboul. Radio Begoum, ça veut dire la radio des reines en persan, donc est soutenue par les Nations Unies et des dons privés, et qui regroupe environ une trentaine de femmes qui sont journalistes et animatrices, qui se relaient au micro au service des autres femmes afghanes. Alors, vous savez, l'Afghanistan, c'est quand même bien le bordel depuis un bon moment avec la prise de pouvoir par les talibans. Et du coup, ce qui est assez ouf, en fait, avec Radio Begoum, c'est qu'elles arrivent à continuer d'exister en respectant ou en tout cas en contournant de façon très intelligente et habile les règles drastiques, fixées par les talibans, ce qui leur évite d'une part de perdre la fréquence et d'autre part de finir en tôle, ce qui semble être deux intérêt pour une radio. On va quand même rappeler que la majorité des femmes malheureusement en Afghanistan est recluse entre quatre murs. Elles ont plus de raison ni tellement de possibilités de sortir et la majorité, c'est ça, dans le centre de Kaboul, il y a quelques lieux de résistance qui parviennent encore à exister, mais quand même d'une façon générale on est sur une situation humanitaire catastrophique avec plus d'accès aux médicaments, un accès très difficile à de la nourriture et évidemment des meufs qui sont enfermées chez elles et qui n'ont plus le droit de sortir et plus de raison de le faire, évidemment plus accès à l'éducation. Du coup, on va vous parler de Radio Begoum à travers une interview d'une des personnes qui y participe qui a été publiée sur Mediapart. Du coup, une des questions qui a été posée, c'est comment faire pour continuer d'exister malgré toutes les restrictions du régime taliban et à la fois sans mettre en danger les personnes qui participent à la radio, en tout cas en les mettant les moins possibles en danger. Et du coup, il semblerait que quand même les médias qui diffusent depuis Kaboul sont un tout petit peu plus préservés que depuis le reste du pays. Et du coup, ça fait que quand même le lieu peut continuer d'exister. Même si malheureusement, les personnes qui font des reportages et qui ne sont pas dans la capitale, c'est de plus en plus galère. Et quand je dis les personnes, une fois encore, c'est que des meufs qui participent. Et avec des punitions directes du régime taliban qui, entre autres, par exemple pour une femme qui avait donné une interview, a vu son atelier de couture qui a été fermé pendant 10 jours. Malgré toutes les précautions d'anonymat, on imagine qui avaient été mises en place. Du coup, on imagine que c'est hyper dur de faire de la radio dans un contexte comme ça. Alors, nous, on va pas faire semblant qu'on a tout le droit de dire. Il y a déjà eu 2-3 soucis, mais quand même, globalement, on réfléchit pas trop. Et en tout cas, on vient pas là tellement la boule au ventre à Radio Canu, et heureusement. C'est ça. En Afghanistan, faut quand même faire gaffe. Et du coup, il y a un certain nombre d'interdits. Par exemple, il est interdit de parler de contraception, donc de prononcer les mots planning familial, préservatif, stérilet, pilule contraceptive, etc. Et du coup, les meufs de Radio Begoum, elles tournent en fait toujours autour du pot. Elles trouvent plein d'astuces pour pouvoir malgré tout en fait parler de tout ça, sans prononcer évidemment les mots interdits qui les enverraient en tôle directement. Mais elles expliquent du coup d'espacement des naissances en vantant les bienfaits d'espacer une naissance pour la bonne santé de la mère, de l'enfant, de la famille, ce qui permet de parler de contraception sans vraiment prononcer le mot contraception, et c'est quand même particulièrement habile. Alors on va pas faire dans le dans l'illusoire, Radio Begoum n'a pas le droit de parler du gouvernement, du régime, n'a pas le droit d'interviewer des hommes, n'a pas le droit de diffuser de la musique ou d'évoquer la possibilité, d'évoquer la situation politique ou toute nouvelle qui pourrait affaiblir l'État, etc. Ça, c'est des vrais interdits et les personnes qui en font partie, bah, du coup, acceptent ou en tout cas s'y plient pour ne pas se mettre en danger et pour pouvoir continuer d'exister. Et quelque part, il y a quand même quelque chose d'assez clair dans leur discours, dans leur positionnement, que pour exister, effectivement, quand on vit en Afghanistan et quand on fait de la radio en Afghanistan, il y a plusieurs choix qui s'offrent. Elles ont fait le choix de respecter et de contourner au maximum les règles, mais de fait de les respecter suffisamment pour pas, alors une fois encore, hein, pour pas finir en prison, ce qui va quand même très 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 vite, et pour continuer d'exister avec cette idée qu'elles permettent à plein de personnes d'accéder à leur programme. Et entre autres, il y a un truc assez chouette aussi sur cette radio, c'est qu'il faut avoir en tête que l'enseignement au-delà de 12 ans est... Enfin, l'accès à l'enseignement est interdit aux femmes au-delà de 12 ans en Afghanistan aujourd'hui. Et du coup, Radio Begoum, en fait, diffuse quotidiennement des programmes éducatifs et en fait qui suivent les programmes du collège et du lycée. Alors, une moitié en langue pancho et l'autre moitié en Dari, et ce qui permet en fait à plein de meufs qui, pour 2 euros, peuvent se procurer un petit récepteur radio en Afghanistan, ce qui est quand même nettement plus facile que l'accès au savoir par les smartphones, par exemple, où évidemment les femmes ont vachement moins facilement accès au smartphone, et c'est assez rare pour les femmes en dehors de Kaboul d'avoir accès au smartphone. Du coup, bah voilà, la FM, c'est quand même vraiment très fort pour ça, et du coup, elle diffuse des cours, ce qui permet quand même à, alors elles estiment à, j'ai perdu le nombre, mais je crois que c'est 500 000 personnes, 500 000 meufs, en tout cas, d'accéder à une forme d'éducation et à une forme d'instruction via les ondes. Et c'est quand même assez fou d'arriver à faire ça. Par ailleurs, sur leur radio, il y a aussi des 2 heures par jour. Avant, c'était 1 heure, mais il y avait une telle demande que c'est 2 heures par jour de soutien psychologique avec des appels nombreux. Et évidemment, bah, on imagine et on sait finalement les violences à l'intérieur des foyers qui sont complètement étouffées, et à la fois de la part des maris et à la fois de la part des belles-sœurs et des belles-mères apparemment. Et du coup, ça fait un espace où les personnes peuvent parler, et c'est pas juste déverser son malheur, et c'est aussi pouvoir le partager, c'est aussi pouvoir transmettre son expérience, avoir une personne qui répond et qui est peut-être dans des conditions un peu moins horribles que la sienne, ou en tout cas, comme c'est pas la sienne, elle est capable d'y apporter des réponses qui peuvent soutenir et aussi partager du coup avec toutes les personnes qui vont écouter. Et même si elles appellent pas, elles peuvent quand même entendre et se dire que leurs difficultés sont partagées. Ça ne va pas dire difficulté, l'horreur de leur quotidien, elle est partagée par d'autres personnes, et d'avoir, de profiter de tout ça. Et c'est quand même vraiment pas rien. Et avec cette idée de se dire aussi, avec des personnes qui ont étudié la théologie, du coup, et qui peuvent donner des conseils spirituels, et surtout, en fait, parler des droits et des devoirs des femmes au prisme de l'islam. Et ainsi donner un peu des tips en matière de divorce, d'héritage, de garde d'enfants, de droit au travail, à l'éducation, pour les aider à argumenter, à se défendre un peu autant que faire se peut. Une fois encore, on imagine, c'est pas miraculeux, et le régime interdit beaucoup de choses, mais peut-être quand un régime interdit beaucoup de choses, c'est aussi toutes ces petites choses qui font vraiment la différence. Et du coup, et bah, voilà, il y a une radio en Afghanistan, Radio Begoum, qui est faite par des meufs et pour des meufs, et qui ont l'air de vraiment faire un taf super, et qui se débrouillent comme elles le peuvent, dans un contexte vraiment tout pourri. Mais en tout cas, ben, bravo à elles.
Je vais revoir un Rominet.
Et ouais, alors les Belges, ils n'ont pas vu un Rominet. Les Belges, ils ont vu des phoques, dites-vous. En Belgique, il y a une plage dont j'ai oublié le nom, mais qui a vu vachement de phoques venir cet été. Alors, venir glander, parce que globalement, les phoques sur la plage, à part glander et dormir, ça fait pas grand-chose. Mais du coup, bah, voilà, il y avait des phoques en Belgique. Et alors, bah malheureusement, à chaque fois qu'il y a des trucs un peu extraordinaires comme ça, ça génère des réactions ou des attitudes qu'on déplore un peu. Et du coup, bon, il y a plein de gens qui sont venus voir les Fox, hein, on comprend l'idée, mais il y a surtout plein de gens qui ne se sont pas dit que les Fox étaient des animaux sauvages, en fait. Ce n'est pas des chiens ou des chats ou quoi que ce soit, c'est quand même des animaux sauvages. Par ailleurs, c'est un petit peu gros, un phoque, et ça n'a pas bien l'habitude d'être au contact des êtres humains. Du coup, bah voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui sont venus, qui ont essayé de les caresser, bon bah qui se sont fait mordre. Il y a des gens qui sont venus avec leurs chiens, qui se sont dit « Ah bah tiens, c'est très très rigolo, je vais laisser mon chien pas en laisse courir autour des phoques. » Conclusion, il y a des phoques qui ont été attaqués par les chiens, et il y a des chiens, il y a un chien qui s'est fait buter par un phoque. En même temps, il faudrait pas venir faire chier sur la plage. Voilà. En tout cas, moi je trouve que des phoques en Belgique, certainement je serais quand même allé voir, peut-être de loin avec des jumelles ou je sais pas, mais ça a l'air super. Mais on se permet de rappeler que bah, les phoques et tous les animaux sauvages, on n'est pas complètement obligé de les faire chier. Quand on les croise, si on tient son chien en laisse, c'est d'autant mieux, ça évitera des embrouilles à la fois pour l'animal, évidemment, et tant qu'à faire pour son clébard, c'est bien aussi. On n'est jamais contre. Du coup, bah voilà, si vous croisez un phoque, vous gardez votre chien en laisse et vous n'allez pas le caresser, en fait. C'est pas un petit chat, c'est très très mignon.
C'est
et très,
un petit
très...
toutou, oui.
Exactement. Pourtant, c'est très mignon et c'est très rigolo. Et on est pour les phoques, on peut le dire. Mais voilà, les animaux sauvages, c'est pas exactement la même chose que votre chien ou celui de votre grand-mère ou celui de votre pote. Du coup, n'hésitez pas à les laisser tranquilles.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et c'est l'agenda, et on va vous parler de bure, et on va même pas vous parler nucléaire, a priori. Du 26, donc c'est déjà un peu passé, hein, mais si jamais vous voulez y aller bah là pour le week-end, c'est jusqu'au 3 septembre 2023. Il y a les rencontres des luttes paysannes et rurales qui ont lieu près de Bure. Vous trouverez toutes les informations en tapant rencontres de luttes paysannes et rurales à Bure. Voilà. Alors si jamais vous habitez en Alsace ou que vous passez par l'Alsace, ou même que vous allez en Allemagne, pardon, il y a la marche vers la liberté pour la libération de Haut-Kalan. Ça, c'est le 8 septembre à 18h. Et en fait, c'est toute une semaine du 2 au 8 où nous prendrons la rue en Allemagne pour demander la libération de Abdullah Öcalan. Il y a plein de lieux, vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut sur Internet, évidemment. Et ben, devinez quoi, demain, c'est samedi. Et le samedi, il y a quoi à Lyon ? Il y a la permanence InfoShop de la Lutine.
Tout à fait.
C'est de 14h à 18h, c'est à la Lutine. Pour les vagabonds, les apatrides, les zonardes, les autres voyageuses temporelles, etc., etc., vous connaissez la chanson. Le dimanche 3, donc c'est ce dimanche, il y a une manifestation justice pour les Kurdes, c'est de 13h à 18h. Au départ, donc rendez-vous 13h, hein, au départ de Jean Massé à Lyon. Et enfin, eh oui, c'est jeudi 7, il y a le vernissage de l'exposition de caricatures de Mohamed Sabahaneh à l'IFCM de Lyon Exposition. Donc Mohamed Sabahaneh, qui est un grand artiste caricaturiste et auteur palestinien, qui vient de sortir la traduction en français de sa bande dessinée « Je ne partirai pas, mon histoire est celle de la Palestine ». Voilà, ça se passe au 52 rue Guillaume Paradin à Lyon 8e.
Cagnot Info du vendredi.
Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Et ben voilà, et ben ce soir, le ACAB, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et ben ça pourrait vouloir dire Allons crier en Afghanistan pour Radio Begoum.
Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une tentative d'appel.
Ah zut, j'ai raté, mais en même temps, la technique avec les téléphones... Oh, attendez,
ah oui, ça,
un instant.
Ça flash.
Allô ? Oui ? Ah, alors il y a quelqu'un qui nous appelle, vous entendez pas, mais moi je l'entends pour de vrai.
Je vous jure, il a le téléphone sur les oreilles.
Ah ! Faudra réessayer, mais est-ce que je vais être capable de faire marcher l'insert téléphonique comme ça à la volée ?
Ah oui, là.
Ah bah vas-y.
Petit curseur téléphone.
Le rouge ?
Sur le, la table de mixage. Ah, là, je peux pas te dire, je vois pas.
Ah là là, on est désolé.
Attends, j'ai une super idée. Tu colles le combiné.
Je colle le combiné. Alors, il faut que tu parles hyper fort, ok ?
Non, l'inverse. Attends, non.
Non, on n'a pas entendu. Ah merde. Ah là là, on est hyper nul aux infos du vendredi. On n'est pas foutu de faire marcher. Et si je fais ça ? Allô ?
Non, mais il faut que tu mettes le curseur. Je ne sais pas où il est.
Bon, eh ben on va s'excuser. On va s'excuser. Tu redis-moi ton ACAB.
Ça, c'est un
ah ouais, on a un câble en anglais. Aware children about bullshit. Et ça c'est super. Ok. Merci d'avoir appelé. Vous voyez, vous pouvez appeler. On peut rappeler le numéro finalement. Le 04 78 39 18 15. Mais et promis, la prochaine fois on se rendra capable d'utiliser le téléphone.
On fera une petite répétition
technique avant. C'est vrai que bon, on n'était pas prêt. Merci beaucoup. Et ben voilà, à part qu'on est passé pour des guignols, mais ça arrive. Mais c'est pas si grave finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les infos du vendredi, c'est fini pour cette semaine.
Tout à fait, et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver les infos tous les jours, donc du lundi au vendredi. Et nous, en tout cas, on se retrouvera vendredi prochain pour les Canu Info. Et en principe, après, c'est l'émission Noise Pollution. Mais ils n'ont pas l'habitude qu'on finisse aussitôt.
Alors, ils ne sont pas encore dans le studio.
Ils sont pas encore dans le studio.
Peut-être ils ne sont même pas là.
Peut-être ils ne seront pas là, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, on vous laisse avec les bandes continues. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Eh bien, carrément, à la semaine prochaine.